Donc après cette chronique donc sur le confinement de notre ami Luc, nous allons prendre des nouvelles d'acteurs importants dans le monde du libre. Évidemment, c'est Framasoft et le collectif Chaton, dont on va expliquer un petit peu ce que c'est. Donc normalement, nous avons avec nous Angie Gaudion de Framasoft. Angie?
Bonjour.
Alors bonjour Angie, comment vas-tu?
Bah écoute, ça va bien.
Ça va bien?
Confiné. Voilà,
Confiné,
confiné
voilà.
au soleil.
Confiné au soleil. Ah, voilà, ça c'est vrai qu'il fait beau en plus aujourd'hui. Donc l'idée un petit peu de cet échange, c'est un petit peu de prendre des nouvelles donc de Framasoft et du collectif Chaton pour notamment depuis le début du confinement. Alors, je vais préciser aux personnes qui écoutent l'émission que nous avons déjà reçu Angie à deux reprises pour parler notamment donc de Framasoft et du collectif Chaton. Donc c'était dans les émissions du 16 avril 2020 et dans l'émission du 18 juin 2020. Donc vous retrouverez les podcasts sur apri.org et sur causecommune.fm. Et on a fait aussi une antenne libre sur les chatons plus récemment dans le cadre du confinement. C'était le 19 mars 2020. Pareil, les podcasts sont disponibles sur les deux sites.
Je
Alors,
vais peut-être te corriger juste, c'était
oui.
2019 les deux premiers, parce que avril 2020,
Oui, j'ai dit 2020.
ouais, c'est pas grave,
Donc,
mais les gens
j'anticipe,
vont
mais
croire que tu
effectivement,
as anticipé les prochaines émissions.
donc effectivement, c'est 16 avril 2019 et 18 juin 2019 pour l'émission consacrée aux chatons et l'antenne libre. C'était plus récemment, c'était 19 mars 2020. Voilà, merci d'avoir corrigé. Alors, on va prendre un petit peu donc des nouvelles de Framasoft et donc du collectif Chaton. On va peut-être commencer un petit peu par Framasoft. Donc le site hein, framasoft.org, site bien connu avec qui propose un ensemble de services libres. Et avec le confinement et avec les problèmes à l'éducation nationale notamment, dont on parlera après avec Laurent Jouetz, Framasoft a été on va dire, au centre de plein de comment dire d'attentes, d'utilisation de services. Donc comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez fait voilà ces dernières semaines?
Effectivement, dès l'annonce du confinement, on a au sein de, du coup de l'asso, on s'est dit qu'on allait avoir forcément une recrudescence d'utilisateurs et d'utilisatrices sur nos services. Donc, on a essayé, voilà, dans un premier temps, de pouvoir pallier cette charge qui arrivait de manière globale. Donc, la plus grosse partie de nos activités tout début de la période de confinement, donc vraiment sur la première semaine, ça a été de maintenir et de renforcer nos services en fait. Donc on a monté des nouvelles instances pour les services les plus utilisés qu'on a, donc à savoir Framapad qui fait de la rédaction collaborative, Framatalk donc qui est une instance Jitsi et Framadrop pour le transfert temporaire de fichiers. Puisque on a estimé, alors ce qui est assez compliqué parce que comme on récolte absolument pas de données personnelles sur ces données, on ne sait pas exactement le nombre d'utilisateurs, mais on a eu des montées de charges vraiment très très importantes, et donc il a fallu qu'on trouve le moyen de pouvoir accueillir un maximum de monde, tout en faisant le choix d'indiquer que l'éducation nationale, en tout cas les enseignants et les élèves, n'étaient pas les bienvenus sur nos services. Non pas qu'on ne veut pas qu'ils soient là, hein. Voilà, enfin c'est pas qu'on ne veut pas leur fournir service, c'est que si effectivement on a 800 000 enseignants et 12 millions d'élèves qui débarquent avec nos petits serveurs, on était incapable de supporter ça et ça aurait tout fait planter. Donc on a fait un choix que nos services soient disponibles davantage pour les télétravailleurs, des petites structures, PME, associations, plutôt que du coup pour le ministère. Ce qui du coup a fait un peu causer effectivement de ce côté-là, mais à un moment voilà, on a considéré que le ministère avait largement le temps de préparer une infrastructure technique voilà, depuis des années voilà, ils auraient pu faire ça, a priori ils l'ont pas bien fait puisque du coup
A
voilà, les
priori,
enseignants
non.
se retrouvaient assez démunis, mais ça a été notre discours initial qu'on a changé depuis hein, c'est-à-dire que depuis la semaine dernière, on n'a plus ce message sur les
Ah,
pages
depuis le
d'accueil
message
de nos
qu'on n'a plus.
services. Non, non, du coup, voilà, parce qu'aujourd'hui, on est en mesure, du coup, d'absorber davantage de charges, tout simplement, puisque, voilà, on a davantage d'instances. Et on a aussi fait quelque chose, c'est que sur Framapad et Framatalk, en fait, du coup, on a aussi renvoyé, du coup, vers d'autres instances externes. C'est-à-dire qu'on a identifié, voilà, d'autres structures qui proposaient ces instances-là. Et quand vous créez un pad sur ces outils, bah, du coup, vous ne le créez pas forcément chez nous. Voilà, vous pouvez aussi le créer à l'extérieur. On a fait un choix du coup de répartir la charge entre différentes organisations, dont la majorité sont effectivement des membres du collectif Chaton dont on parlera tout à l'heure.
On précise peut-être que le terme instance, en fait, c'est des sites web quelque part. Si les gens comprennent pas, c'est qu'une instance est une version du site web qui permet, par exemple, de faire de la visioconférence, de la téléphonie ou effectivement du bloc-notes. Alors, sur le salon web de la radio, on me demande de préciser de quel ministère il s'agit. C'est le ministère de l'Éducation nationale, bien entendu. Je te laisse poursuivre.
Bien sûr, on s'est rendu compte que du coup, avec cette charge sur nos services, sur les logiciels qu'on utilisait, il y avait besoin aussi de les enrichir avec quelques fonctionnalités. Donc, mes collègues techniciens, du coup, ont résolu des bugs, ajouté du coup un certain nombre d'éléments sur plusieurs logiciels, et en particulier Etherpad, qui permet de faire de la rédaction collaborative en ligne. On a aussi mis en place une instance du logiciel Mumble. Donc, on a installé sur nos serveurs, un Mumble public. On en avait déjà un, mais plutôt qu'on utilisait en interne au sein de l'asso. Donc là, qui fait de l'audioconférence. On n'est pas sur de la visio. Et ensuite, on a même proposé une interface web pour éviter que les internautes, du coup, aient besoin d'installer un logiciel ou d'installer une application sur leurs appareils. Voilà. Donc maintenant, il y a une interface web qui permet d'y accéder sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit.
Et effectivement, ça, c'est une très bonne chose, parce que nous aussi, on a un Mumble à l'April, et j'ai passé beaucoup de temps, notamment dans le cadre de la radio aussi, à essayer d'expliquer aux gens comment installer le client Mumble. Ça paraît relativement simple, mais en fait, ça n'est pas forcément super aussi simple que ça pour tout le monde. Et le fait d'avoir un accès web directement donc à un Mumble, donc à l'audioconférence, permet vraiment à n'importe qui de pouvoir l'utiliser avec une qualité audio qui est quand même nettement supérieur à beaucoup d'autres outils. Donc, c'est vraiment une très bonne chose.
Et c'est vrai que sur notre service Mumble, on peut accueillir jusqu'à 6500 personnes en même temps. Voilà. Donc, en termes d'accueil, pour le coup, on est vraiment sur un service qui permet d'accueillir vraiment beaucoup de monde de manière simultanée sans que ça nous impacte, nous, au niveau technique. Et puis, on a aussi, sur le plan technique, mis en place un outil suite à la demande qu'on a reçue, du coup, de médecins qui, du coup, était un peu embêté avec le fait qu'il devait faire de la prise de rendez-vous via les services habituels qu'on connaît, Doctolib et compagnie, ce qui leur semblait pas super classe en termes de protection des données personnelles de leurs futurs, de leurs patients. Et donc, on a monté via le logiciel Nextcloud, du coup, une interface qui s'appelle Rendez-vous médecin, qui leur permet de proposer à leurs patients de prendre rendez-vous par ce biais-là, en étant dans un contexte sécurisé qui récupère pas les données, etc. Donc voilà, mes collègues techniques ont vraiment développé quelque chose qui est totalement adapté en fait à ce besoin.
D'accord, ça c'est un outil qui est donc réservé pour des médecins en fait, pour prendre la prise de rendez-vous.
C'est ça. D'accord. Exactement, pour faire de la prise de rendez-vous.
Alors, je précise que tous les sites que va citer Engie, on mettra les liens directement donc sur la page consacrée à l'émission, hein, que ce soit sur april.org ou sur causecommune.fm, mais sinon en allant sur framasoft.org, vous les retrouverez assez facilement.
C'était vraiment faire que nos services puissent continuer à fonctionner et qu'ils puissent être disponibles pour le plus grand nombre d'internautes. En parallèle, on a documenté notre activité pendant le confinement en fait au sein de l'asso. On s'est dit que c'était vraiment très très important d'avoir un journal de confinement en fait qui racontait comment on vivait cette situation. Donc sur notre blog qui s'appelle Framablog, on a un certain nombre d'articles qui expliquent comment on a vécu les premiers jours, comment on s'est organisé, sachant que par exemple une partie de l'équipe salariée à Framasoft n'était pas en télétravail, même si une grande partie était déjà en télétravail, donc pour nous c'est plutôt facile de s'y mettre, mais quand même comment on vivait les situations, qu'est-ce qu'on faisait, dans quel ordre on s'organisait, etc. Donc on a cet aspect de documentation de notre présent, de notre vécu sur cette période, aussi parce qu'on se dit que dans quelques années ce sera quelque chose de assez intéressant à re-regarder, et pour voir comment on gère cette crise au sein d'une petite association qui fait du service libre. Donc tout ça peut se trouver sur le Framablog. Voilà. Pierre-Yves Gosset, qui est le directeur général de l'association, s'est lancé dans un travail monumental d'un mémo sur le télétravail. Parce que justement, on a une expérience intéressante dans ce cadre-là, puisque ça fait des années qu'au sein de l'association, une grande partie d'entre nous télétravaillons. Et donc, on a du coup créé cet espace où, effectivement, on donne notre avis, des conseils, nos façons de fonctionner, nos méthodes d'organisation pour aider toutes les personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain à devoir télétravailler sans avoir aucune idée de comment s'organiser. Donc c'était pour nous voilà un outil qu'on fournissait qui allait permettre à ceux qui le souhaitaient en tout cas de piocher dedans voilà des bonnes conduites, des méthodes, etc.
C'est un mémoire qui est important et parce que ce confinement doit être aussi l'occasion effectivement pour peut-être développer plus le télétravail, mais il faut que les structures qui employeuses aient quand même conscience que c'est un télétravail particulier. On l'a déjà dit sur cette antenne hein, que parce que c'est en période de confinement donc émotionnellement et d'un point de vue mental, c'est plus compliqué pour les gens. Et puis aussi, tout simplement, le confinement des enfants. Donc, les personnes qui ont des enfants à la maison, bah, le télétravail, c'est pas forcément évident. Mais donc, il faut tenir compte de ça et en profiter effectivement pour améliorer les procédures et les mécanismes de télétravail dans l'avenir, qui est quand même quelque chose de très bien.
On a aussi, bien sûr, enrichi la documentation sur nos services, puisque plus on a d'utilisateurs et d'utilisatrices de nos services, plus on a des gens qui comprennent pas comment ils fonctionnent. Donc, on a eu une montée aussi en charge de demandes sur notre support. Et donc, pour voilà, au mieux renseigner ces utilisateurs et utilisatrices, du coup, on a voilà, agrémenté, enrichi voilà, la partie de documentation qu'on propose. Donc, par exemple, sur le Mumble Web, puisqu'on n'en avait pas avant, il a fallu écrire intégralement cette documentation de voilà, comment on fait pour se rendre sur notre Mumble Web, comment ça marche, comment on rejoint un salon, etc., etc. On l'a fait aussi sur Jitsi, donc sur notre service Framatalk, et on l'a fait aussi sur Rendez-vous Médecin pour que justement les médecins et leurs patients qui souhaitent prendre rendez-vous du coup puissent voilà, comprendre comment fonctionner ces interfaces.
Et c'est important, ces documentations sont très bien faites, en plus il y a des copies écrans, on peut suivre très facilement, et donc c'est vrai que c'est une des grandes qualités qu'a Framasoft aussi, c'est de mettre en place des services, mais également avec la documentation qui va avec, qui permet finalement à la personne qui débarque de pouvoir suivre une documentation et d'utiliser le service.
Et puis pour nous, c'est en plus de ça, c'est aussi quand on a des questions assez basiques qui arrivent du coup via le support, on peut directement faire un lien vers la documentation sans avoir besoin de réécrire et de répondre systématiquement. Voilà, en réfléchissant, en fait, on va chercher directement l'info. Donc, on gagne aussi du temps par rapport voilà au soutien à nos utilisateurs. Cependant, on a quand même eu énormément effectivement de demandes via notre formulaire de contact. Et donc, on a créé sur notre forum Framacolibri une catégorie spécifique pour le temps du confinement qui s'appelle Entraide, où on a très clairement appelé à la communauté du coup Frama bah, de pouvoir nous aider aussi à accompagner les internautes quand ils avaient des questions. Donc ça a très très bien pris. Voilà, les gens du coup posent davantage leurs questions sur le forum et c'est pas forcément les membres Frama qui répondent à ces questions, ce qui permet voilà de répartir on va dire cette tâche d'accompagnement du coup entre un plus grand nombre d'accompagnateurs.
Donc ça c'est sur framacolibri.org et évidemment les personnes qui veulent aider Framasoft et qui se disent comment on peut aider Framasoft, ben, une façon d'aider c'est d'accompagner les autres en répondant aux questions.
Tout à fait. Voilà. Et puis enfin, on a été sollicité par plein d'acteurs divers et variés pour voilà mettre en évidence leurs initiatives. Voilà, alors c'est parfois des partenaires avec lesquels on est déjà en contact, parfois c'est je pense par exemple au collectif Continuité Pédagogique voilà qui s'est monté de toute façon en 3 jours à partir du moment où il y a eu l'annonce du confinement et donc voilà, on fait des coups de projecteur sur ces initiatives afin de leur donner davantage de visibilité qu'ils ne pourraient en avoir puisque souvent ils sont très nouveaux, donc ils n'ont pas forcément voilà le réseau. Donc là voilà, on parle de ce qu'ils font, on explique ce qu'ils font, on le fait en partenariat avec eux. Et c'est important. Et on a aussi repris quelques articles qui avaient été publiés sur des blogs externes pour les rendre plus visibles. Je pense par exemple à l'article de Stéphane Bensmeyer sur l'Internet pendant le confinement, qui permettait aussi de repréciser au tout début du confinement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, les gens pensaient qu'Internet allait craquer, enfin que ça allait lâcher, que ça allait pas tenir. Oui. Voilà. Et Stéphane Bensmeyer, pour le coup, voilà, compétence dans ce domaine-là, voilà, expliquait en quoi. Voilà, cette frayeur pouvait être évacuée et qu'a priori, et d'ailleurs on le voit bien, là, 3 semaines plus tard, voilà, ça fonctionne toujours, donc tout va bien.
Si je peux te permettre, c'est qu'il a écrit un livre l'an dernier qui s'appelle Cyberstructure, on l'a reçu sur Libre à vous, donc vous trouvez le podcast, et le livre doit être disponible en EPUB sur le site de l'éditeur, donc vous cherchez Cyberstructure, Stéphane Bensmeyer, donc c'est une lecture potentielle pendant le confinement pour mieux comprendre Internet. Je te laisse poursuivre.
Après, on a continué à communiquer sur des projets qui étaient déjà lancés pré-confinement et qui du coup est arrivé, on va dire, en mise en œuvre. Typiquement, le partenariat sur un libre cours, donc qui est un cours en ligne sur la culture libre, qui a commencé d'ailleurs hier. Donc on a voilà, on a fait un petit article expliquant ce que c'était que ce cours, comment on pouvait s'y inscrire, etc. Voilà, bon, les sessions sont pleines, donc voilà, ce cours se lance et puis voilà, on a une vingtaine d'apprenants qui du coup apprennent le monde de la culture libre et des licences libres dans ce cours. Et puis on a fait un petit article sur comment les acteurs du libre se mobilisent dans le cadre justement de la solidarité numérique confinement. Donc on a listé voilà les différentes initiatives qu'on a identifiées, voilà, qu'on a vu passer ou qu'on nous a fait connaître dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un article qui du coup marche assez bien parce que c'est vrai qu'on y retrouve plein d'éléments voilà pour tout simplement être plus à l'aise dans cette situation particulière, tout en voilà mettant en valeur les acteurs du libre qui du coup ont fait énormément de choses sur le début du confinement, qui se sont vraiment activés très fortement. Voilà, en fait, on continue à accueillir. En parallèle, on fait ce qu'on faisait déjà, mais voilà, différentes interviews pour des médias, pour expliquer alors soit notre positionnement par rapport à ce confinement et en particulier par rapport à l'éducation nationale, mais aussi tout simplement la découverte des outils. Voilà, ça c'est une activité plus, on va dire, régulière, mais qui a pris un peu plus de place dans notre activité sur ces trois dernières semaines. Voilà, okay. Donc ça, c'est ce qu'on a fait voilà sur les trois dernières semaines. Peut-être pour vous dire, au sein de Frama, pour le coup, le confinement nous touche toutes et toutes hein, au sein de l'association. Les deux premières semaines ont été épuisantes, vraiment, parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Alors, c'est très dynamisant hein, de se retrouver dans une situation de pression comme ça où il faut s'activer. Ce qui fait que quand même, au bout de deux semaines, on a été très, très fatigués. Voilà, au moins psychologiquement. Et depuis du coup la semaine dernière, voilà, sur les semaines à venir, on a décidé de manière collective que il fallait que du coup on s'épuise pas trop et que ça y est, l'urgence n'était plus une urgence et qu'il fallait qu'on pense à sortir de cette urgence, donc repenser effectivement voilà, ce qu'on allait faire dans les semaines à venir. Avec du coup un souci vraiment très très fort au sein de l'association du bien-être des membres. Voilà, on prend très très souvent des nouvelles les uns des autres. Oui. Voilà, on se questionne sur comment on vit ces situations. On s'assure qu'il y ait voilà pas de membres qui se retrouvent dans des situations délicates. Enfin, on essaye au maximum en tout cas d'accompagner voilà celles et ceux parmi nous qui du coup ont voilà des situations de vie qui sont plus complexes ou tout simplement qui vivent moins bien ou qui angoissent plus. Donc ça, c'est aussi un élément très très propre à l'association Framasoft, c'est voilà cette espèce de bienveillance, sachant que voilà on a toujours dit qu'on était une association basée sur l'humain et que ce qui nous importe davantage, c'est les humains qui composent l'association. Il faut que ces humains soient bien.
Je partage tout à fait ça. Effectivement, pour nous aussi, c'est l'humain, c'est le principal. Les outils comme Mumble, par exemple, ou Jitsi, ou d'autres outils, permettent de garder ce contact visuel, donc notamment, puis audio aussi. Et on peut faire ça tous les jours, ou une fois par semaine, par exemple, faire un point, prendre nouvelles, etc. Donc, c'est vraiment très important. Alors, Angie, le temps file. On vient de parler justement des humains. Si on parlait un petit peu des adorables petites bêtes qu'on appelle les chatons. Du côté des chatons, où ça en est?
Alors, le collectif donc des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, lui aussi a réagi au quart de tour au moment de l'annonce du confinement, avec une différence notable, c'est que à Frama, on est une seule structure et en plus avec des salariés, donc on peut aller assez vite finalement dans les éléments. Au sein du collectif, c'est 70 structures différentes, dont la majorité n'ont pas forcément des salariés, donc on va dire que la mise en œuvre de solutions a été un peu plus lente, forcément du fait qu'il n'y avait pas du tout la même quantité d'énergie. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé du côté des chatons? C'est qu'on s'est rendu compte que les gens étaient hyper perdus en termes d'outils. Dès le début, en fait, ils ne savaient pas du tout quels outils utiliser. Donc, on a enrichi ce qu'on appelle notre litière, parce que du coup, toute une métaphore autour du monde des chats. Hein. Donc, il y a en fait un wiki, tout simplement, du collectif. Et donc, au sein de cette litière, on a créé une nouvelle catégorie qui sont les outils du télétravail, où en fait, pour chaque outil, chaque logiciel chaque logiciel libre du coup possible, on a fait des fiches qui présentent les fonctionnalités de l'outil. On a recensé des tutoriels d'utilisation, des tutoriels d'installation pour les personnes qui techniquement seraient en mesure d'installer et de configurer justement ces outils sur leur serveur. Et puis une liste d'instances publiques identifiées. Voilà. Au tout début, je me souviens, tout le monde me disait « Oui, mais alors Jitsi, du coup, je vais où pour retrouver Jitsi ?» Voilà. Donc là, on a répondu vraiment à ce besoin très, très rapidement en essayant d'identifier du coup un maximum d'instances. Donc, on l'a fait sur plein de logiciels, voilà, Jitsi, Mumble, Mattermost, RocketChat, enfin, voilà, il y a une liste assez importante du coup sur la litière qui est vraiment de la documentation et de l'accompagnement des internautes dans la découverte de ces outils. Et en parallèle, on a travaillé sur un nouveau site qui s'appelle entraide.chaton.org, donc chaton au pluriel, qui est en fait un portail d'accès simplifié à des services en ligne sans inscription et qui répondent aux besoins les plus courants des internautes. L'intérêt de ce site web, c'est que du coup, on a une interface simplifiée qui permet très très vite d'accéder voilà, à ces outils sans se poser la question de chez qui je vais pour trouver l'outil, sachant qu'en fait, on a un système de à chaque fois que vous vous connectez, vous n'allez pas avoir les outils chez les mêmes opérateurs, chez les mêmes hébergeurs. On a pris du coup parmi les chatons tous ceux qui proposaient, voilà, un service logiciel et ça tourne pour que la charge soit répartie entre l'ensemble des structures qui composent Chaton et que ça ne surcharge pas l'un d'entre nous plutôt qu'un autre.
Voilà, pour qu'en fait la charge repose sur le collectif voilà. Des différents sites d'hébergement. Exactement. D'accord. Donc c'est entraide.chaton.org avec chaton au pluriel.
Au pluriel, exactement. Et donc ce site, créer un site web rapidement, voilà, c'est beaucoup d'énergie. Donc voilà, il y a un petit groupe de travail qui s'est monté du coup pour arriver à faire ça dans des délais du coup très très rapides. Donc ça, c'était la plus grosse partie du collectif. Bien sûr, on a un forum au sein du collectif Chaton qui est un forum public, hein, donc sur lequel les échanges sont visibles auprès de tous. Et donc on a aussi une arrivée, voilà. de plein de gens sur notre forum qui viennent nous poser des questions. Donc, on a toute cette alimentation du forum pour répondre voilà, aux différentes questions qu'on nous pose. Donc, ça, c'est super parce que du coup, ça dynamise énormément le collectif dans son ensemble.
Super. Donc là, c'est l'actualité en 2-3 minutes maximum. Et demain, est-ce qu'il y a des projets, des visions
Côté Frama, la question aujourd'hui, et, voilà, on l'a pas vraiment réglée, mais... La question qu'on se pose, c'est qu'on avait identifié une feuille de route pour 2020, qu'on avait publiée du coup en novembre dernier, et on se rend bien compte que cette feuille de route, on va pas pouvoir la tenir, puisque voilà, là, on a fait autre chose ces trois dernières semaines, et on va sûrement faire autre chose que cette feuille de route encore dans les semaines à venir. Donc aujourd'hui, on s'interroge sur comment voilà, on va pouvoir faire une certaine partie de ce qu'on avait annoncé, comment on gère le fait qu'on va peut-être pas réaliser sur cette année du coup voilà, une autre partie de cette feuille de route. Typiquement, on avait annoncé qu'on allait faire une collecte pour financer la V3 du logiciel Peertube. Et très clairement, le contexte fait que quand même, on ne va pas être en mesure de faire ça. Voilà, puisque en plus, cette collecte, on l'avait prévue du coup de début mai voilà, jusqu'à fin juin. Donc là, on n'est pas du tout prêt pour arriver à faire ça dans les temps. Donc on est en train d'essayer de voir comment on va pouvoir changer du coup la forme de cette collecte. Voilà, on sera plus du tout sur un crowdfunding habituel. Voilà, c'est pas défini encore. On est encore dans le questionnement sur comment on va améliorer ça. En revanche, ce qui va sortir a priori courant mai, qui était déjà prévu courant mai, c'est qu'on avait lancé un questionnaire pour recenser les acteurs, les actrices de l'accompagnement numérique libre. Et donc ça, on est en train de faire le travail de synthèse pour justement pouvoir sortir tout simplement la liste de ces différents acteurs, parce qu'on se rend bien compte aussi aujourd'hui que cette liste, elle manque en fait sur l'aspect médiation numérique. On a vraiment besoin que ce travail sorte, donc voilà, il devrait arriver du coup dans les semaines à venir. Mmh. On va maintenir ce qu'on avait annoncé en septembre sur la fermeture de services. On avait annoncé qu'on allait fermer un certain nombre de services. Donc ça va continuer à se faire. Et donc, en parallèle, on continue à travailler sur ce qu'on appelle les pages alternatives. Quand un service ferme, en fait, on a une page qui indique « Ok, le service ferme chez nous, mais on ne vous laisse pas tout seul dans la mouise. On vous propose du coup d'aller voir à tel ou tel ou tel endroit pour avoir un service équivalent. »
D'accord.
Voilà, donc ça, il y a un travail de préparation, effectivement, de toutes ces pages. Voilà. Et puis là, on se rend compte depuis le début de la semaine, ça y est, que nos deux développeurs, donc Chocobuzz sur Peertube et Tessit sur Mobilizon, sont un peu moins mobilisés sur le maintien des services existants. Et donc, vous pouvoir recommencer, on va dire, leur activité habituelle qui est de coder, voilà, de programmer, du coup, c'est développer ces, ces logiciels, tout simplement. Donc, ça va revenir petit à petit, sûrement pas autant qu'en contexte plus normal. Mais voilà, ils vont pouvoir remettre le nez dedans un peu plus pour continuer à avancer, du coup, sur ce développement. Voilà. Et enfin, on avait annoncé un projet de cloud. Voilà. Là, aujourd'hui, on ne sait vraiment pas si on va être capable, du coup, de le fournir d'ici la fin de l'année. Donc, voilà, on en est vraiment au stade de la réflexion. On est dans une phase, là, depuis quelques jours, qui est, voilà, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est pas hyper défini. On est encore beaucoup dans cette réflexion-là. Et je pense qu'on prend le temps, justement, de réfléchir avant de repartir bille en tête, du coup, en essayant de faire exactement ce qu'on avait annoncé, alors que le contexte a changé.
D'accord. Bon, en tout cas, ça nous donnera l'occasion de prendre des nouvelles. Je vais juste préciser, on a parlé de Peertube, c'est un service de partage de vidéos décentralisé, on peut dire, et Mobilizon, c'est un outil pour permettre aux organisations de s'organiser, de se mobiliser, de partager des événements. C'est ça.
Ouais, nous, on souvent le présente comme l'alternative aux événements et aux groupes sur Facebook.
D'accord. OK.
Voilà.
Bon, bah, écoute, en tout cas, on va reprendre des nouvelles bientôt. On te souhaite le meilleur, ainsi qu'à tous tes collègues et tous les membres de Framasoft, hein, et puis merci pour ce que vous faites. Voilà, tu leur fais des bises virtuelles de notre part, hein, avec grand plaisir. Donc c'était Angie Gaudion de Framasoft. Tous les liens donc qu'elle a cités, vous les retrouverez sur les références, évidemment sur framasoft.org et sur chaton avec un s.org, et également sur le site de la radio causecommune.fm et sur le site de l'april.org dans les pages consacrées à l'émission. Angie, je te remercie, puis je te souhaite de passer une belle fin de journée ensoleillée donc.
Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. À très bientôt.
À bientôt, Angie.